Bonsoir à tous. Le procès de Hervé Pinto a repris cet après-midi devant le tribunal judiciaire après une suspension de quelques minutes. Depuis de longues heures, depuis ce matin en fait, les débats tournent autour du contexte dans lequel se déroulent les faits pour lesquels Hervé Pinto est jugé. Le prévenu accuse le président du tribunal de manque d'impartialité. Les pompiers mobilisés depuis près de 3-4 heures maintenant pour un feu de bambou sur la commune du François. Les opérations doivent notamment permettre d'éteindre 3 foyers encore actifs. Thomas Cazenave, lui, est arrivé en Guadeloupe. Le ministre des Comptes Publics poursuit sa visite express aux Antilles. Ce matin, avant de quitter la Martinique, il a notamment rencontré les maires pour parler bien sûr de la réforme de l'octroi de mer, mais aussi parler des questions liées aux finances de nos collectivités. Le droit de retrait des agents de l'unité de soins intensifs en psychiatrie se poursuit malgré différentes rencontres avec la direction du CHUM, la prison, l'ARS et la préfecture. La question de la prise en charge des patients détenus pose toujours problème. Dans l'Hexagone, Kenji Girac est tiré d'affaire, blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi. Le chanteur doit désormais être entendu en longueur par les gendarmes. Une enquête pour homicide est toujours en cours. Antoine Ludowski, lui, a décidé de porter plainte. L'arbitre de la rencontre AS Mendezès, émulation qui a suscité de vives polémiques ce week-end, ne décolère pas après la publication de données personnelles d'arbitre. Vous l'entendrez dans ce journal, le président de la Ligue, lui aussi, en a assez. Et puis nous reviendrons également sur les pronostics pour les courses de demain. Ça sera à suivre en fin d'édition. Hervé Pinto est donc jugé depuis ce matin par le tribunal correctionnel de Fort-de-France. L'un des héritiers de Félix Gratte est engagé depuis des années maintenant dans la revendication d'un héritage de terrain au quartier Clouette aux Trois-Îlets. Incarcéré depuis le 10 mars pour non-respect des obligations liées à son contrôle judiciaire, Hervé Pinto est jugé pour port d'armes blanches, harcèlement moral, trouble à la tranquillité entre décembre 2023 et janvier 2024. Il est également poursuivi pour un second dossier, un dossier de violences aggravées et de menaces envers un représentant de l'autorité publique. Ce matin, la demande de renvoi formulée par son avocat a été rejetée. L'audience a pu débuter vers 11h. Et depuis, les débats se sont concentrés sur le contexte qui précède ces fameux faits pour lesquels Hervé Pinto comparait. En clair, le tribunal se penche depuis ce matin sur l'origine du fameux terrain, sa vente et la construction des différentes maisons dessus. Pour l'avocat de Hervé Pinto, maître Monotouka, ces débats n'ont permis qu'une seule chose.
Prendre conscience, en fait, de l'ampleur de l'acte de prédation, tant sur le plan géographique, plusieurs hectares de terre, mais aussi sur le plan financier, des milliers d'euros, en fait, qu'ils se partagent au détriment des vrais propriétaires.
Voilà un tribunal, en fait, qui se trouve justifié à donner raison à ceux, en fait, qui dépouillent. Et aller jusqu'à les présenter comme les vraies victimes pour les indemniser. On continue à dépouiller en fait des êtres humains au profit d'autres que l'on sait être les vrais prédateurs. Et on considère qu'en fait que celui qui est dépouillé n'a pas le droit d'agir, de réagir. Et donc sinon il tombe sous le coup de l'infraction puisqu'il a traumatisé en fait les voleurs. Donc voilà la situation. Et monsieur Hervé Pinto, comme vous l'avez vu, a réagi de manière en fait, je dirais, très saine, en disant mais c'est scandaleux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Je ne peux pas reconnaître en fait ces faits parce que je ne les ai pas commis. Les vrais en fait responsables, ceux qui commettent les infractions, ce sont ceux-là.
Maître Monotouka, interrogé par Déborah Ambroisine. Les débats ont repris peu avant 17h après une suspension d'audience. L'avocat de la défense a demandé la mise en liberté du prévenu, demande qu'a rejeté le procureur qui estime qu'il doit être maintenu jusqu'à demain, jusqu'à la suite de son procès au vu des risques de pression et de représailles sur les familles des victimes. L'audience se poursuit au moment où nous parlons devant le tribunal judiciaire. Thomas Cazenave, lui, est arrivé en Guadeloupe ce soir après sa visite express de 24 heures en Martinique. Le ministre des Comptes publics a multiplié les rencontres aujourd'hui pour évoquer le dossier épineux de la réforme de l'octroi de mer. Plusieurs propositions ont émergé, des textes qui seront soumis à simulation à Bercy. Le ministre s'est engagé à un renvoi des préconisations d'ici fin mai. Sur la question du financement de nos collectivités, face au ministre ce matin, certains maires de Martinique ont plaidé pour davantage de subventions. Une fausse excuse, selon José Mirande, le maire du Marin, qui prône, lui, une meilleure ingénierie.
La ville du Marin, je suis arrivé en 2020, ça fait 4 ans. J'ai eu droit à 33 millions d'euros de subventions. Les projets sont en berne, peut-être. Il faut des projets pour avoir des subventions. Des projets mûrs, des projets qui vont aboutir et les subventions vont tomber. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de subventions en Martinique, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de fonds européens, il n'y a pas de fonds d'État, FEDER, FEI, tout ce qui s'en suit, fonds Barnier, DSIL, DETR, tous les fonds et fonds verts dont je bénéficiais. Je crois que dans ce pays-là, il nous faut apporter des projets à maturité. Il faut que, par exemple, soit les EPCI, soit la CTM accompagnent les villes à monter leurs projets. Donc, il faut avoir deux phases. La première phase, accompagner les études et financer les études pour aboutir à des études sérieuses et dans un même temps, financer les projets qui sont aboutis.
Le maire du Marin, José Mirande, interrogé par Adeline Courson. Nous poursuivrons ce débat dans Mardi Écho ce soir, juste après ce journal. Nous recevrons pour évoquer ces contraintes et ces solutions qui s'offrent à nos communes le représentant de l'AFD, le directeur local de la Banque des Territoires, mais également le directeur général des Finances publiques, oui, et un élu de la ville de Fort-de-France pour tenter d'aller plus loin sur cette thématique. Je vous retrouverai en compagnie d'Erika Morgeon tout à l'heure à 18h30. D'ici là, à 18h07, on poursuit l'actualité sociale avec ce droit de retrait qui continue pour les membres de l'unité de soins intensifs en psychiatrie de l'hôpital Maurice d'Épinois. Depuis une semaine bientôt maintenant, une partie des 24 soignants dénonce une insuffisance de sécurité et la mise en danger du personnel. Il faut dire que l'unité accueille des patients qui souffrent de troubles psychiatriques graves, notamment des détenus en provenance du centre pénitentiaire de Ducos. Leur nombre a fortement augmenté ces derniers mois, jusqu'à 11 patients détenus pour 15 lits. Plusieurs réunions ont eu lieu avec la direction, mais aussi l'ARS, la préfecture et les services pénitentiaires. Des rencontres qui, pour le moment, n'ont rien donné, selon les agents mobilisés. Paul Auguste, infirmier de l'unité de soins intensifs en psychiatrie de l'hôpital Maurice d'Épinois.
Voilà, ils viennent vers nous en nous disant que on ne peut pas diminuer l'effectif des détenus, on ne peut pas nous donner plus d'effectifs, donc c'est un retour à la case départ, je vais dire, et on n'a absolument rien obtenu. Tellement la situation continue, jeudi, on a eu un soignant qui s'est fait violemment agresser par un patient médico-légal. Il a deux fractures au visage, une fracture du nez et une fracture au niveau des zygomatiques, plus un traumatisme cervical. Voilà la situation. On a commencé le droit de retrait mercredi et jeudi, le collègue s'est fait violemment agresser. On est toujours en insécurité, il y a toujours autant de violence et personne ne veut nous entendre.
Des propos recueillis par Kathleen Bilas-Copette. Les syndicats mixtes de l'énergie de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, mais aussi de La Réunion, réunis chez nous autour d'une table ronde depuis ce matin à l'hôtel Batelière à Chelcher. Les quatre entités organisent la distribution de l'électricité sur les territoires respectifs à échange avec leurs partenaires et concessionnaires depuis ce matin sur de nombreuses thématiques. Un état des lieux, les enjeux, encore les perspectives, l'état du réseau et la distribution électrique, mais aussi les zones non connectées, dépendantes ou interconnectées ont été autant de sujets évoqués tout au long de la journée. Karl Léveillé est le directeur général des services du syndicat mixte d'énergie de Guyane, mis en place il y a seulement 2 ans. Il est interrogé par Florence Treuil.
Tout syndicat, en ayant commencé, partant de zéro, a dû être confronté à des situations qu'il n'a peut-être pas pu maîtriser parce qu'il n'avait pas connaissance. Il n'y a pas l'ingénierie suffisante pour pouvoir répondre à certains enjeux. Là, le SMEGI a la chance d'avoir ses AODE. Il y a des sujets sur lesquels on pourra avoir déjà l'expérience des autres pour justement de ne pas se tromper. Alors, tout en étant dans une logique, de ne pas penser que le copier-coller peut fonctionner. Mais n'empêche que je reviens toujours à cette idée de cadre réglementaire. Il y a des choses dans le cadre réglementaire qui peuvent se faire. Et le fait que d'autres avant nous ont été dans certaines difficultés, eh bien, leur expérience, ils pourront nous dire, attention, parce que vous risquerez de vous retrouver dans telle situation. Voilà. Mais cet échange-là me paraît très utile. Et puis, c'est une façon aussi de dire, hein, seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller loin. Faire les choses ensemble avec une forme d'unité.
Des propos recueillis par Florence Treuil. La semaine des langues continue également du côté du lycée Nord-Atlantique, destiné à mettre en lumière la diversité linguistique dans les établissements. Tout au long de la semaine, un pays, une culture et une langue seront à l'honneur chaque jour, avec des projets, des activités, mais aussi la participation du service de restauration. Dans le cadre de cette semaine, l'établissement reçoit 3 délégations européennes en provenance d'Italie, d'Allemagne et de Finlande. Chacune se compose de 5 élèves et de 3 enseignants, un joli petit groupe d'une vingtaine donc de personnes qui permettront à nos élèves eh bien, de progresser en langue, évidemment de progresser surtout en anglais, comme nous l'explique Sabrina Sinefro-Kuta. Elle est professeure d'anglais et enseignante référente pour l'action européenne et internationale.
Même si dans notre établissement nous ne proposons pas les langues des partenaires qui seront présents, nos élèves ainsi que nos partenaires s'exprimeront en anglais. Donc quoi de mieux, quoi de plus authentique que de pratiquer en situation. Étant donné que nos partenaires seront hébergés chez les élèves, c'est vraiment un bain linguistique qui aura lieu puisque nos élèves ne parlent, même s'ils ne parlent pas allemand, finlandais, etc., ils pourront échanger en anglais qui sera véritablement au cœur de la communication, mais ils pourront découvrir la langue de leurs partenaires et transmettre la nôtre, c'est-à-dire le français, les nôtres, devrais-je dire, le français et le créole. Donc, on sait très bien que les bains linguistiques en immersion sont toujours les meilleurs pour progresser. Donc, on espère que ça va développer des besoins, des envies de la part des deux côtés, hein, en fait, des Européens comme des nôtres, pour apprendre de nouvelles langues vivantes.
Sabrina Sinefro-Kuta, professeure d'anglais et référente pour l'action européenne et internationale. Toujours pas de cours, en revanche, au collège Rose Saint-Just à Trinité. Parents et professeurs se sont mobilisés ce matin. Ils ont reçu le soutien de la communauté éducative. Tous dénoncent la suppression d'une classe de 4e à la rentrée prochaine, qui vient s'ajouter déjà à la perte de 2 classes de 6e et de 3e cette année. Des suppressions qui soulèvent plusieurs problématiques, notamment en matière de sécurité, d'inclusion ou encore de mal-être. Restez avec nous, l'info nationale et internationale, c'est à suivre dans quelques instants. On prendra des nouvelles du chanteur Kenji Girac.
Retrouvez ma finotte
et Caro, sa belle-fille,
entre parenthèses,
en exclusivité sur ATV. Du lundi au vendredi à 18h50,
avant le journal télévisé,
pour partager un moment de rire et de délire.
Oh, de joie et de bonheur et d'amour fou entre une magnifique belle-mère
et sa magnifique belle-fille adorée.
Oula, n'oubliez pas, nous vous donnons rendez-vous sur ATV en exclusivité.
J'ai passé un très bon moment. Ça te dirait d'aller boire un verre quelque part pour faire plus ample connaissance?
Oui, pourquoi pas.
Ah, désolé, elle va démarrer, t'inquiète. Allez, allez.
Écoute, c'était sympa, mais je crois que je vais plutôt rentrer avec ma copine finalement.
Attends, Mélanie, elle va démarrer.
Panne de batterie au mauvais moment, heureusement, chez AutoQuick, il y a des batteries à tout moment à 49,99€ seulement. 62 ampères et référence B60 toute l'année.
AutoQuick, l'expert sans concession.
Sac de Rivière Roche, Leclerc.
Dépenser moins au quotidien, c'est encore et toujours possible à Prix Leclerc. Jusqu'au 28 avril, le lot de 2 boîtes de 397 grammes de lait concentré sucré Nestlé est à 3,51€. Eh oui, pour une boîte de 397 grammes à 2,34€ achetée, la deuxième est à moins 50%. Pas mal, non? Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Tout ce qui compte pour vous existe à Prix Leclerc.
La suite du journal, Florin Aussu.
Il est 18h passé de 14 minutes. L'affaire Kenji Girac à la une de l'actualité encore ce soir. Le chanteur devrait bientôt être entendu par les enquêteurs. Il est tiré d'affaire selon son manager. Je vous le rappelle, Kenji Girac a été blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi sur une aire d'accueil des gens du voyage dans des circonstances encore floues. Lui assure qu'il s'agit d'un accident domestique avec une arme qu'il venait d'acheter dans une brocante, dit-il. Vincent Serrano, c'est une version qui, sur place, ne convient pas du tout et qui ne convainc pas les habitants.
Oui, surtout pas les organisateurs des deux grosses brocantes qui se sont tenues ici dimanche. Place Gambetta d'abord, la présidente de l'association des Lapins Blancs est formelle. Jamais eu d'armes en vente ici, collection ou non, public essentiellement de personnes âgées. Et si Kenji Girac était venu comme ça en centre-ville, on l'aurait vu. La seconde brocante a été organisée sur le parking d'un supermarché. Plus de 100 exposants recensés par Dominique, que nous avons joint tout à l'heure par téléphone.
Le règlement que j'ai fait dit de ne pas avoir d'armes fonctionnelles, que de collection. Mais moi, je n'ai pas vu. Et je n'ai pas vu d'attroupement.
Donc, pour vous, il n'est pas venu sur votre brocante?
Lui-même n'est pas venu. Mais peut-être quelqu'un d'autre.
Dominique, qui dit ne pas avoir été entendu par les gendarmes, Cindy, une habitante de la Teste, s'est rendue sur ces deux brocantes dimanche. Et elle tient le même discours que les organisateurs.
Quand même assez grande. Il y a quand même pas mal de stands. Après, beaucoup d'habits, de vaisselle, de jouets, tout ça. Après, d'armes, non. J'y crois pas vraiment. Maintenant, tant qu'il est en vie, qu'il respire, c'est très bien. On mérite de voir sa fille grandir.
Alors l'état de santé de Kenji Girac ne permet pas aux enquêteurs de l'interroger aujourd'hui pour lui demander entre autres si oui ou non il a bien acheté une arme sur une brocante et si cette arme est à l'origine du tir qui l'a blessé grièvement.
La correspondance de Vincent Serrano pour RTL. À l'une de l'actualité politique, cette nouvelle convocation pour les Insoumis. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, est convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme, comme Rima Hassan, la militante pro-Palestine, candidate aux européennes, mais pas exactement Marie-Bénédicte Allaire pour les mêmes raisons.
Non, et Mathilde Panot est convoquée en tant que présidente des députés insoumis pour des faits datant du 7 octobre, sans plus de précision, selon les informations de RTL. Mathilde Panot pense que ce qui lui vaut cette convocation, c'est bien ce communiqué publié le 7 octobre dernier qui parlait de l'attaque du Hamas comme d'une offensive armée de forces palestiniennes, sans la condamner explicitement, ni la qualifier de terroriste. Chez les insoumis, on dénonce une police politique à l'image du député Adrien Clouet.
C'est une basse manœuvre de police aux ordres du pouvoir. On a bien compris ce qui se passe. C'est-à-dire que le pouvoir macroniste a décidé que toute forme de demande de paix au Proche-Orient et toute forme de soutien à une solution pacifique pour les Palestiniens et les Israéliens était désormais criminalisée.
Jean-Luc Mélenchon s'indigne lui aussi sur son compte X. Toute la sphère politique et intellectuelle anti-génocide est menacée, écrit-il, se référant à Gaza. Les insoumis font en effet lien entre cette convocation, celle de Rima Hassan, et les conférences de Jean-Luc Mélenchon interdites pour risque de trouble à l'ordre public. Emmanuel Macron a pourtant lui-même déclaré que le leader insoumis devait pouvoir s'exprimer.
Les précisions de Marie-Bénédicte Allaire. On revient en Martinique avec les suites de ce dossier de la divulgation d'infos personnelles des arbitres de football en Martinique. Antoine Ludowski a décidé de porter plainte. C'est cet arbitre qui officiait samedi soir lors de la rencontre entre l'AS Mendezès et l'Émulation. Une rencontre qui a suscité de vives polémiques ce week-end, puisque les décisions de l'arbitre ont été contestées. C'est suite à cette rencontre donc que des numéros de téléphone et des adresses e-mail d'arbitres ont été divulgués sur les réseaux sociaux. Une situation inacceptable pour le président de la Ligue de foot, Samuel Perrault, qui dénonce cet incident.
Nous disons, ça suffit. De l'eau dépassée farine. Il est inadmissible que des gens derrière leur clavier ou derrière leur écran puissent mettre en cause et jeter comme cela des personnes chargées de missions de service public, tout comme les policiers, tout comme les sapeurs-pompiers, tout comme les magistrats. Les arbitres font en sorte que des compétitions puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Donc nous les avions déjà prévenus, nous irons jusqu'au bout et nous appelons les autorités judiciaires à la rescousse pour que ce type de dérive ne puisse pas se reproduire. Nous allons réunir rapidement le conseil d'administration pour savoir quelle dimension donner à la réponse à cette attaque inadmissible contre une institution.
Samuel Perrault, le président de la Ligue de football de Martinique, interrogé par Christian Boutrin. Nous aurons l'occasion demain sur RCI d'entendre la réaction d'Antoine Ludowski. Il a choisi notre antenne pour s'exprimer. L'arrivée des courses ce mardi à 7 11, 16 et 8. Demain, nous serons à Cordemais. 16 partants pour une épreuve de 2800 mètres. C'est la quatrième étape du Grand National du Trot, prix de la communauté de communes. Les pronostics pour cette course de demain, Gisèle vous conseille de jouer le 11, le 5, le 13, le 2, le 10, le 3, l'As et le 7. 11, 5, 13, 2, 10, 3, As et 7. Pour le 2 sur 4, le 5 et le 11, le départ de la course est prévu à 7h55. Restez avec nous, l'info économique revient dans quelques secondes et nous poursuivrons les débats autour des financements de nos collectivités et singulièrement les finances de nos communes. Mardi Éco, c'est à suivre dans quelques instants.
Merci beaucoup Florin Aussu, c'était votre grand journal de la soirée. On retrouvera bien sûr Florin Aussu tout à l'heure dans Mardi Éco-Société. A tout de suite.
L'info continue sur www.rci.fm. RCI, c'est la vie.
Découvrez les offres Boost chez votre concessionnaire LAN Automobile avec des remises exceptionnelles. De quoi booster votre mobilité avec les véhicules sans permis Aixam. Booster votre confort avec les SUV électriques Subaru et CRS. Et booster vos travaux avec les pick-up Isuzu D-Max. Jusqu'à 6000 euros de remise. Avouez que c'est du super boost. Venez vite en profiter dans votre concession LAN Automobile, les Hauts-de-Californie-Lamantin. Voir conditions en concession. Bouger, se déplacer, moins polluer.
La ligne Alerte Info sur RCI. Vous souhaitez nous contacter, nous communiquer une information? Composez le 63 31 31. Soyez les contributeurs de la rédaction d'RCI. 0596 63 31 31. La ligne Alerte Info de RCI. 63 31 31.
Mercedes-Benz. Quand on est grand, tout paraît trop petit et mal adapté. Les sièges d'avion, trop petits. L'évier de la cuisine, trop bas. Votre lit, pas assez long. Mais quand vous rentrez dans un fourgon Mercedes-Benz Citan, tout est parfaitement adapté à vos besoins. Le nouvel e-Citan, fourgon 100% électrique, bénéficie d'un volume de chargement de 3,3 m3 et c'est un partenaire de vie et de travail spacieux et fiable au quotidien.
En ce moment, profitez de l'offre en défiscalisation sur le Mercedes-Benz e-Citan 100% électrique à partir de 399 euros par mois.
Mercedes-Benz, the best on nothing.
Pensez à covoiturer. Offre en défiscalisation réservée aux professionnels éligibles, voire conditions en concession.
Pour un petit bon.
L'heure vous est offerte par Gédimat Martinique.
Gédimat, au cœur de l'ouvrage.
Il est temps de prendre un bon yaourt Mentlité.
Mentlité, yaourt Martinique. Fabriqué au verre près depuis 1952.
Bon début de soirée sur RCI, il est 18h30.
Gédimat Martinique est à vos côtés avec ses promos spéciales extérieures. Jusqu'au 4 mai, venez profiter de nombreux produits à des prix super promos. Retrouvez le carrelage extérieur 45 par 45 cm beige modèle City à 10,90€ le mètre carré ou la tôle ondulée 75 centièmes à 17,90€ le mètre linéaire. Toutes les promos sont à retrouver dans vos trois magasins Gédimat à Place d'Armes, Dillon et Rivière-Salée. Gédimat, au cœur de l'ouvrage.
Grand moment, moi, non, Lise, t'es une raison. Il était toujours de garder moi, José. Moi, j'ai l'as du grand coûté petit, petit coûté grand. Et je suis là, conti maman y a savouré le nouveau yaourt Mentlité 1952. Avec la bonne recette en temps longtemps. Comme quand j'étais petit, des pots en verre, du lait concentré, un yaourt ferme à la texture si particulière. Six saveurs inoubliables, le nature sucré et le nature, mais aussi les pots en verre, aromatisés aux arômes naturels de goyave, de coco, de citron et de vanille. Ouai, maman, ça bondonne.
Mentlité, yaourt, Martinique. Fabriqué au verre près depuis 1952. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Mangezbouger.fr.
h 19h, Info Plus sur RCI. Le mardi, c'est Mardi économique. Florin Aussu.
Tout de suite, Mardi éco-société, Florin Aussu, Erika Borgeon de France Antilles et leurs invités. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, 18h30, votre rendez-vous consacré à l'actualité économique. On en parlait dans le journal de 18h. Les contraintes de nos communes, de nos collectivités, les solutions pour établir leur budget, autant de thématiques que nous allons détailler avec nos invités ce soir pour évoquer cette thématique qui a notamment été au cœur d'une rencontre entre le ministre des Comptes Publics et les maires de Martinique ce matin. Bonsoir Erika.
Bonsoir Florin, bonsoir à tous.
On va avoir le plaisir d'accueillir nos invités, quatre invités avec nous en studio pour évoquer ces problématiques. Raphaël Séminor, maire adjoint de Fort-de-France, chargé des finances, bonsoir.
Oui, bonsoir et surtout bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de RCI.
Franck Robert, le responsable du service collectivité territoriale au sein de l'AFD est avec nous, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices d'RCI, à toute l'équipe d'RCI.
L'Agence française de développement, on reviendra sur sa mission dans quelques instants. Le directeur général des finances publiques de Martinique, Rodolphe Sauvonnet, nous fait le plaisir également d'être présent ce soir. Bonsoir.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de RCI.
Et enfin, nous terminons ce tour de table avec notre dernier invité, Roland Picot, le directeur territorial de la Banque des Territoires. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et tous.
Alors, nous avons choisi cette thématique d'émission il y a quelques semaines maintenant, mais hasard de l'actualité, le calendrier nous a beaucoup servi puisque ce matin, les maires ont participé à cette, les maires et leurs représentants, à cette rencontre avec le ministre des Comptes Publics. Et ça sera ma première question, Raphaël Séminor. On le voit bien, cette problématique de l'argent de nos communes, des finances de nos communes, c'est une problématique complexe, mais d'actualité permanente.
Clairement, parce que nous avons beaucoup de collectivités qui sont en difficulté aujourd'hui, quoi qu'on dise, hein, même si les choses s'améliorent, mais il n'empêche que aujourd'hui les collectivités luttent pour garder la tête hors de l'eau. Et quand on sait qu'il y a effectivement des retards structurels en matière de production d'équipements pour nos populations, et pas seulement, je veux parler par exemple du transport en commun, je veux parler du traitement des déchets, de l'eau et de l'assainissement, pour ne citer que ces politiques publiques-là, on voit très bien qu'il nous manque énormément de financement et de crédits pour pouvoir faire face aux besoins exprimés par la population. Donc c'est normal, le ministre Cazenave est passé. Alors ce matin, j'étais moi-même à la préfecture, je représentais la ville de Fort-de-France, et le sujet principal qui a été exposé et évoqué, c'était effectivement l'octroi de mer. Pourquoi l'octroi de mer? C'est simplement parce que ça représente une recette extrêmement importante dans les budgets locaux, et forcément il y a une inquiétude qui s'exprime dans la mesure où il s'agit, et ça a été annoncé par le gouvernement et notamment par le comité interministériel des Outre-mer, il s'agit de modifier cet octroi de mer, et nous ne savons pas aujourd'hui quelle solution nous sera proposée par le gouvernement. Alors, le ministre Cazenave indique que rien ne se fera sans concertation, mais chiche.
On vous sent dubitatif.
Alors, avant de parler de l'octroi de mer, Franck Robert, est-ce que vous pouvez nous dire globalement comment se portent les communes de Martinique sur le plan des finances, et peut-être commencer par nous dire en une phrase ce que c'est que l'AFD ?
Alors oui, merci. L'AFD, c'est l'Agence française de développement, est une banque de développement, donc présente dans tous les Outre-mer, mais également dans plus de 80 pays. Le rôle d'une banque, bien sûr, c'est de financer. Donc on finance les institutions publiques et assimilées, mais pas que, puisqu'on finance aussi le secteur médico-social et certaines entreprises privées. Nous accompagnons les collectivités dans leurs investissements. Nous accompagnons aussi avec des moyens non financiers, par de l'appui technique, de l'appui conseil. C'est un petit peu la complémentarité de ce que l'on fait. Hein. On parle de financement, mais on parle aussi d'appui. On les prépare à calibrer leurs investissements, à calibrer leurs projets. Donc,
ce qu'on appelle l'ingénierie financière, en fait. C'est comment constituer tout ce qui est les démarches autour de l'argent et des financements.
Nous allons au-delà des financements, puisque cette ingénierie, elle va aussi à une ingénierie de projets techniques sur des thématiques du déchet, de l'eau, hein, de l'urbanisme, des thématiques de transport, par exemple, énergie. Donc, c'est ce petit plus que l'on porte en tant que banque, mais banque de développement, au service du développement du territoire.
Alors, vous venez de sortir votre bilan, alors vous avez du recul. Comment se portent les finances des communes martiniquaises ?
Elles sont en amélioration, et puis ce matin, on l'a encore confirmé, hein, avec le discours du ministre. Elles sont sur une trajectoire d'amélioration, elles font beaucoup d'efforts, et je crois que Fort-de-France est un exemple qui nous permet de confirmer ces efforts que font les collectivités pour se porter mieux, puisque on sait tous que les dotations sont en réduction, donc il y a des efforts à faire au niveau des charges de fonctionnement. On parle beaucoup de personnel, mais il n'y a pas que ça, il y a les charges générales. Et nous, on les pousse aussi, on les accompagne à investir, parce qu'on sait de rien que notre territoire a besoin d'investissements structurants pour pouvoir, je dirais, aller mieux en termes de cadre de vie pour les populations.
Rodolphe Savonnet, peut-être redéfinir aussi la construction de ces budgets de nos communes, parce que dans ces sommes, dans ces financements, il y a d'abord les impôts qui sont prélevés, il y a cet octroi de mer, comment est-ce qu'on construit le budget d'une commune ?
Alors le budget, je le rappelle, il est construit par la collectivité ou par la commune. Et la direction régionale des finances publiques intervient en appui, en conseil, auprès des collectivités si nécessaire. Après, la structuration des dépenses ou des recettes, bien évidemment, en recettes, on retrouve 75% d'impôts et de taxes, dont l'octroi de mer dont parlait M. Séminor tout à l'heure, qui est une recette importante des collectivités. Ensuite, on retrouve à hauteur de 17% des dotations de l'État, des subventions à hauteur de 5%. Et puis ensuite, ce sont des recettes de biens ou de services divers. Sur la partie dépenses, on est plutôt à 67% consacré aux dépenses de personnel, bien évidemment, 16% au titre des subventions qui sont versées, 13% à hauteur des achats et des dépenses externes, et ensuite ce sont des petites dépenses qui sont liées aux intérêts bancaires et aux dépenses diverses. Donc sur les intérêts bancaires, c'est pertinent d'indiquer que les collectivités vont dans le bon sens puisqu'elles se désendettent progressivement. Donc c'est une bonne chose.
67% de dépenses pour les frais de personnel, c'est énorme. Franck Robert, ça s'améliore. Et pourquoi c'est si important ?
C'est si important parce que la structure des collectivités, si on fait un petit peu un historique, c'est un petit peu un tampon social. Aujourd'hui, on ne peut plus mettre en avant ce tampon social. On a parlé d'ingénierie, on a parlé de plus de technicité. Donc forcément, il y a ce service public que les collectivités doivent rendre. Les services publics, ce sont les agents qui le rendent avant tout. On ne parle pas que d'équipement, on ne parle pas que de stratégie, on parle aussi de personnes qui sont dans ces collectivités, d'où on a ce pourcentage moyen, comme vous l'avez indiqué, de 67% de charges du personnel, qui sont maîtrisées aujourd'hui. Il y a des efforts qui sont faits vraiment par des villes sur ce chapitre-là. Mais ne pas oublier que ces charges du personnel, derrière, il y a un service public à rendre. Et le service public est de plus en plus... Enfin, les administrés sont de plus en plus demandeurs de services publics.
Alors, et un autre organisme qui intervient et qui participe dans cet effort collectif pour construire les budgets, c'est la Banque des Territoires. Roland Picot, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre vocation, la vocation de votre organisme et de manière pragmatique à quoi il s'emploie au quotidien avec nos communes?
Alors déjà, la Banque des Territoires, c'est une des cinq directions du groupe Caisse des dépôts. Je pense que c'est important de le dire, on connaissait très bien le groupe Caisse des dépôts, on connaît un peu moins la Banque des Territoires. En fait, l'idée, c'est d'être au plus proche des collectivités sur les territoires. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces collectivités dans leurs investissements. On est vraiment sur une complémentarité avec l'AFD, il était précisé en fait le fonctionnement, mais lorsque l'on souhaite investir, il faut être bien sûr en capacité de rembourser les prêts, et la Caisse des dépôts sera sur des prêts qui permettront d'avoir une temporalité très longue et donc des investissements qui dureront plusieurs générations.
C'est-à-dire, prenons un exemple, je suis le maire d'une commune, je souhaite refaire le parking de l'école primaire et puis pourquoi pas un abribus et une aire de jeu pour les enfants pour qu'ils attendent les bus. Je viens vous voir, je peux emprunter sur combien d'années?
En fait, à minima, on sera sur 25 ans. Je trouve que l'école est un très bon exemple. Un très bon exemple, parce qu'en fait, quand on parle notamment de l'impact du climat, l'évolution climatique, et notamment les impacts que l'on va avoir avec le temps, les orages, les cyclones, le séisme, l'école est pertinente. Aujourd'hui, toutes ne sont pas parasismiques. Un maire qui se dit « je vais essayer de protéger mes enfants, je vais à ce moment-là investir sur quelques années, et les quelques années, on imagine qu'il le faut de toute façon sur plusieurs générations ». Eh bien là, il pourra venir nous voir, on sera sur des temporalités de 30-40 ans.
Avec des taux qui sont différents des taux et des dispositifs appliqués par le secteur privé pour les particuliers?
Clairement oui, en fait on est sur une base assez simple. En fait on est sur l'épargne réglementée. C'est-à-dire que chaque Martiniquaise et chaque Martiniquais, lorsqu'elle met 1 euro sur son livret A, eh bien 7 euros, on va le transformer en épargne long terme pour les projets d'investissement du territoire.
D'accord, donc c'est l'argent de l'épargne locale qui va financer ces projets à travers cet organisme.
Exactement, c'est une transformation de cette épargne. Donc nous, bien entendu, on protège l'épargne de chaque épargnant. C'est bien ça l'idée, on met un euro, on veut le récupérer. Et nous, on va pouvoir le prêter sur le long terme, alors aux organismes de logements sociaux, mais aussi aux collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit la CTM ou les EPCI ou les communes. Et donc, dès lors qu'elles ont un projet d'investissement, on parle bien d'investissement et pas de fonctionnement, c'est un peu la différence effectivement à noter, et bien dès lors qu'on parle de ces projets d'investissement, et bien on va pouvoir les accompagner sur des temporalités qui correspondent à des durées d'amortissement.
Alors, Raphaël Séminor, lorsqu'on entend ça, ça a l'air simple sur le papier de construire ce budget, puisqu'on a plein de dispositifs à choisir. On a qu'à se baisser pour construire son budget. Pourquoi nos communes ont ces problèmes structurels de budget? Alors, c'est on va mettre le doigt dedans, c'est les frais de fonctionnement qui ont été mal gérés pendant des dizaines d'années.
C'est absolument les frais de fonctionnement. Pourquoi? C'est un mécanisme extrêmement simple. Plus vous avez une masse salariale qui est élevée, on a parlé de 67% tout à l'heure, ça veut dire que ce qui vous reste sur votre budget de fonctionnement est tout juste pour pouvoir faire face à vos besoins. Parce que vous n'avez pas que des salaires à payer. Vous
avez... Et en plus, c'est une moyenne. Pour certaines communes, c'est 75%.
Oui, bien sûr, c'est une moyenne. Mais déjà là, sur les 67%, c'est déjà un seuil d'alerte. Mais un seuil très important d'alerte, hein, parce que normalement, on doit se situer dans les 50%. Ça signifie que ce qui vous reste est presque insuffisant pour faire face aux besoins. Et de plus, et c'est ça qui est important, il vous faut arriver à dégager un autofinancement, c'est-à-dire faire en sorte que vos recettes soient plus importantes que vos dépenses, de telle sorte qu'il vous reste un petit peu pour pouvoir financer vos investissements, c'est-à-dire vos dépenses d'équipement. Et si vous n'avez pas cet autofinancement, évidemment, vous n'allez pas pouvoir investir parce que les banques, alors la Banque des Territoires, c'est bien, la Caisse des Dépôts, la Caisse des Dépôts, pardon, l'AFD, ce sont des partenaires qui sont extrêmement importants, mais il n'empêche qu'ils ne vont pas vous prêter de l'argent s'ils sentent que vous n'êtes pas en capacité de rembourser les sommes dues par année.
Si vous n'en avez pas.
C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc il vous faut dégager d'abord cet autofinancement, ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, la CAF, enfin pour ceux qui connaissent. et vous démontrez votre crédibilité financière par le dégagement justement de cet autofinancement, de telle sorte que vous puissiez emprunter. À ce moment-là, vous complétez votre financement pour les opérations que vous allez inscrire dans votre budget. Donc c'est extrêmement simple parce que c'est un mécanisme qui est connu par tous les financiers et puis par tous ceux qui administrent les villes, mais on n'y arrive bien souvent pas. Hein. Bon, c'est vrai que ça s'améliore, mais il n'empêche que c'est encore difficile maintenant. L'AFD a commencé à emprunter à la ville de à prêter à la ville de Fort-de-France parce que la situation de la ville de Fort-de-France est largement améliorée. Mais auparavant, l'AFD disait attention. Vous ne serez peut-être pas capable de
rembourser. Finalement, bon, c'est voilà. Comme un particulier. Hein. C'est,
mais bien sûr, c'est comme un particulier.
Je vais à la banque exactement. Avec un découvert voilà. Au-delà de ma limite et je leur dis de prêtez-moi de l'argent. On va me dire non, vous mettez à zéro d'abord.
Comme un particulier.
Justement, Franck Robert, comment ça se passe? L'AFD ne prête qu'aux riches?
Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je voulais parler qu'au-delà de l'activité de banque-finance, il y a cet appui, cet accompagnement qui permet justement d'accompagner les collectivités et autres organisations à se mettre sur une trajectoire leur permettant, en fin de compte, d'emprunter. On ne regarde pas l'emprunt à l'instant T. Bien sûr, on analyse les comptes des collectivités, mais on regarde aussi quelle est la trajectoire. À 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et à ce moment-là, on décide de prendre un risque ou pas. Nous, on essaie, en fin de compte, d'aller, j'ai envie de dire, là où les autres ne vont pas, puisqu'on est quand même une banque qui permet, on a la possibilité d'avoir des fonds. On appelle ça des fonds bonifiés, qui permettent de faire descendre les taux d'intérêt. Donc, ce sont des partenariats, des fonds que l'on met en œuvre, hein, qui des fonds du ministère des Outre-mer, hein, qui nous sont octroyés chaque année pour permettre justement d'aller plus loin et de diminuer en fin de compte ce risque auprès des collectivités pour leur permettre en fin de compte de pouvoir investir. Parce qu'on sait que de toute manière, quand il faut aider, on n'aide pas que les riches, on aide aussi ceux qui ont besoin d'aide. Donc, oui, le dispositif financier est important.
C'est pas l'idée.
Mais le dispositif. Ouais. D'accompagnement pour arriver à des critères qui soient acceptables pour pouvoir emprunter, c'est ce que nous mettons en œuvre au niveau de l'appui, conseil et l'ingénierie que nous mettons à disposition. Et là, nous sommes sur de la subvention pour les aider à progresser.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un frein politique? Allez, on va appeler un chat, on va mettre les pieds dans le plat. Comment est-ce qu'on peut planifier, budgétiser un projet, sachant que dans 4 ans, 3 ans, 2 ans, je vais perdre ma mandature, peut-être, et c'est une autre majorité qui va prendre la main. Y a aussi cet aspect politique qui peut jouer un frein. Est-ce que ça a pu, par le passé, ralentir la croissance et le développement de nos collectivités? J'ai envie de voir qui va me répondre le premier.
Qui prend la parole?
Non, mais il y a une certaine continuité. Vous imaginez que vous commencez une opération, il faut la terminer, même si au renouvellement du conseil municipal, c'est une autre équipe qui arrive. Non, je pense que l'AFD n'est pas dans cette logique-là. Je ne pense pas que la Banque des Territoires le soit non plus.
On va leur poser la question dans un instant. Oui, on va leur poser la question.
Non, il y a une continuité quand même. Et puis les opérations, il ne faut pas oublier que Vous investissez pour une population. C'est pas simplement des combats de chefs qui s'expriment dans les conseils municipaux. Non.
18h47, cette phrase sera retenue, Raphaël Séminor.
C'est noté. Ce sera répété.
Est-ce que la Banque des Territoires peut confirmer qu'il y a des projets qui arrivent à dépasser cette couleur politique?
Elles le doivent pour une simple et bonne raison. Tout à l'heure, j'évoquais, nous sommes au-delà de 25 ans. On peut même aller, dans certains cas, sur le foncier jusqu'à 80.
Rare est un maire qui durait 80 ans.
On peut lui souhaiter, effectivement, de faire 80 dans le mandat, mais ça reste délicat. Non, clairement, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est d'aller au-delà de la limite des 6 ans, on va dire, de la limite théorique des 6 ans. C'est d'accompagner sur la durée d'amortissement d'un bien. Et c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Les écoles, on espère bien, une école dure à peu près 70 ans. Si on la finance sur 10 ans ou 5 ou 6 ans, ça pose des questions. Et c'est bien ça qu'il faut aligner.
On parle de sommes, j'imagine, démesurées à l'échelle des communes et du nombre d'habitants. Les dossiers de la ville de Fort-de-France ne vont pas être les mêmes que les dossiers du Marigot ou de Fonds-Saint-Denis.
Clairement. Mais quand on regarde les sommes aujourd'hui empruntées, enfin, notamment sur le volet scolaire, eu égard notamment donc aux subventions qui peuvent aussi exister, donc qui permettent de protéger nos enfants, on est sur des budgets somme toute relatifs. Pour nous, les prêts sur une des communes, alors je ne vais pas forcément la citer aujourd'hui, mais sur une des communes, on a prêté 3 millions d'euros l'année dernière. 3 millions d'euros, eu égard à la population, eu égard à la temporalité que j'évoquais, ça reste raisonnable, ça permet de faire d'autres investissements. Et c'est ça la dynamique qu'il faut lancer à chaque fois.
Vous savez que les sociétés d'HLM empruntent sur 40 ans. Hein. Alors, c'est des prêts extrêmement longs, mais c'est des productions de logements, 150, 200, 300 logements et plus. Donc 40 ans, c'est très long, mais et ça correspond effectivement à la durée d'amortissement de ces opérations-là.
Et vous, Rodolphe Sauvonnet, comment la DRFIP, les impôts, peuvent accompagner les collectivités?
Alors la DRFIP, oui, les impôts, on ne gère pas que les impôts, sinon je ne serais pas là ce soir. Il faut savoir que la Direction régionale des finances publiques assure la gestion des collectivités locales sur l'ensemble du département. Donc on encaisse les recettes de toutes les collectivités et on paye les dépenses de toutes les collectivités. C'est ça la particularité en matière de commande publique, on va dire aussi. C'est nous qui assurons les paiements. C'est pas monsieur le maire de Fort-de-France, mais qui paye la facture. Le maire de Fort-de-France mandate une facture et c'est notre service de gestion comptable qui va la régler. Donc, c'est le principe de séparation ordonnateur-comptable, puisqu'en fait, on gère des fonds publics et donc c'est une sécurité supplémentaire qui a été apportée dans la réglementation, mais ça remonte à 1962, donc ça date pas d'aujourd'hui.
Avec des délais qui, parfois, ça arrive, que les délais de paiement posent quelques petits soucis, hein, on va dire ça comme ça. Très clairement, c'est remonté à chaque fois, dès que une collectivité, mais aussi dès qu'un particulier, une entreprise a l'occasion, ce qui ressort depuis 6 mois, 1 an, c'est ces délais de paiement. Ces délais de paiement, ils sont trop longs. Ils plombent le fonctionnement, ils plombent l'ingénierie des projets même, parce que c'est bien beau d'avoir une somme qui doit être payée s'il faut attendre des mois. Est-ce qu'on arrive à s'améliorer là-dessus, Rodolphe Sauvonnet?
Alors, on s'améliore pour les communes. Donc, assez nettement, on a effectivement plus de trésorerie aussi, parce que les recettes en matière d'octroi de mer ont été très bonnes en 2022, elles sont restées très bonnes en 2023, et là, sur le premier trimestre 2024, elles sont également excellentes. Donc ça fait de la trésorerie en plus pour les collectivités, donc ça leur permet d'améliorer les délais de paiement. On a parfois des problèmes structurels qui font qu'on pourrait améliorer les choses, c'est pour ça que j'avais proposé au président Letchimy de mettre en place un service facturier, ce qu'il a accepté. Maintenant, on est ensemble dans les groupes de travail qui vont nous permettre d'aboutir sur ce chantier. Et là, je pense qu'on gagnera aussi au niveau de la collectivité territoriale sur les délais de paiement, puisque c'est quand même la collectivité qui assure la commande publique de manière conséquente sur le département.
Mais on va prendre un cas très 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 simple, notre cas d'école. Cette école que je construis, moi je suis maçon, je vais réaliser le gros œuvre qui va être facturé par la commune. Quel délai je peux espérer entre le moment où j'ai fini mon enduit et le versement de ma prestation par la commune?
Alors là, ça dépend des communes. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que il y a à peu près la moitié des communes du département qui arrivent à avoir un délai global de paiement proche de 30 jours. Donc, après, on a des exceptions pour des problèmes de trésorerie ou de structuration. Nous, on est là pour conseiller les collectivités, pour essayer de trouver des améliorations. Et pour ce faire, j'ai 3 conseillères aux décideurs locaux qui sont en place sur le périmètre de chaque EPCI, donc Cap Nord, la CAESM et puis également la CACEM. Et donc, on a une conseillère des décideurs locaux qui est à la disposition notamment de la ville de Fort-de-France et qui a travaillé aussi au suivi du contrat quorum dont bénéficie actuellement la ville de Fort-de-France.
Dites-moi, tout à l'heure vous disiez, vous parliez de l'octroi de mer, Raphaël Séminor, qui représente 75%, enfin tout ce qui est impôt et taxe représente 75% du budget des communes. Est-ce que c'est pas un peu un cercle vicieux? Et tout à l'heure, Rodolphe Sauvonnet, vous disiez que les recettes de l'octroi de mer ont été excellentes, bah parce que inflation, parce que augmentation, etc.
Et des prix.
Augmentation des prix. Est-ce que c'est pas un peu vicieux ce système qui nous fait dépendre des importations pour financer les communes?
Écoutez, c'est un problème vraiment préoccupant pour les collectivités locales de Martinique et des Outre-mer de manière générale. Cet octroi de mer finance, vous l'avez dit, hein, je sais pas 75%, c'est un peu moins que ça, mais c'est quand même conséquent et substantiel. Cela veut dire qu'on ne peut pas se passer de ce financement. On ne peut pas se passer. Les collectivités ne peuvent pas se passer de ça. Et de plus, il ne faut pas oublier que l'octroi de mer a pour vocation de protéger la production locale. Donc il y a l'octroi de mer va dans deux directions. Et à ce titre-là, nous ne pouvons pas nous permettre effectivement de faire effacer complètement ces crédits. Monsieur Sauvonnet disait ce matin que c'est 350 millions d'euros. Quand on sait que le gouvernement cherche à faire une économie de 10 milliards pour cette année 2024, on se dit que nous ne sommes pas...
Le poste de dépense le plus...
À l'abri d'une régression de nos financements par le gouvernement.
On n'est pas le poste de dépense le plus protégé.
Il ne faut pas oublier que nous allons, au titre de ces économies à faire par le gouvernement, on va nous enlever 83 millions ici en Martinique. Donc ça veut dire que l'octroi de mer devient quelque chose d'incontournable et de trop...
De vital,
exactement. C'est pour ça que nous disons, attention, réformer l'octroi de mer, il n'y a pas de problème. Le comité interministériel des Outre-mer prévoyait effectivement que la loi de finances de 2025 pourrait consigner la modification de cette procédure, en tout cas de cet octroi de mer, pour une application en 2027. 2027, c'est demain, hein, c'est dans 3 ans. Donc ça veut dire que il faut absolument que les élus et même peut-être la population réfléchissent, et surtout les élus, très clairement aux propositions à faire au gouvernement au titre de la modification de l'octroi de mer. Parce que c'est trop important. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis je dis, et je l'ai encore dit ce matin, je veux tordre le cou à l'idée selon laquelle c'est l'octroi de mer qui surenchérit les coûts des produits que nous consommons ici. Pour une raison extrêmement simple, c'est que nous avons surtout des services dans ce pays et pas d'industrie.
Pas de grosse industrie.
Et sur le plan d'agriculture, nous savons que c'est de la banane et de la canne, enfin le rhum, qui tiennent la corde. Donc ça signifie que, comme l'octroi de mer ne porte pas sur les services, donc ça veut dire que c'est tout le reste, est un peu marginal, presque. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est à peu près ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'octroi de mer qui véritablement a un impact important sur l'augmentation des prix, en tout cas sur les prix élevés qui sont pratiqués ici. Et le CIOM indiquait... Il y a deux autres raisons, à savoir l'éloignement, puisque nous consommons, donc les produits viennent de France, surtout de France, en tout cas d'Europe, et puis le nombre d'intermédiaires intervenant effectivement dans ce processus. Donc il faut absolument que nous pesions sur l'ensemble de ces paramètres-là pour que nous puissions offrir à la population martiniquaise eh bien, des prix beaucoup plus abordables. Je ne parle même pas du transport aérien.
On aura l'occasion de reparler de cette réforme de l'octroi de mer. Une dernière question pour vous, Roland Picot, pour clôturer cette émission. Vous publiez régulièrement, la Banque des Territoires publie régulièrement des baromètres, des analyses de la situation. Là, aujourd'hui, si je vous demande au 22-23 avril 2024, comment est-ce que vous... Quelle température, comment vous prenez le pouls de la situation économique de nos communes?
Alors, en fait, on est vraiment, nous, en accompagnement. Donc, prendre le pouls, ce n'est pas forcément le mot que j'aurais choisi. Nous, on vérifie si la faisabilité nous semble cohérente. Donc, on les accompagnera plutôt en ingénierie. Donc, le pouls, la direction, l'orientation, la stratégie, c'est les maires qui la proposent. Nous, on fait en sorte de les accompagner.
Est-ce qu'on vous sollicite suffisamment?
Je sens effectivement qu'il y a une appétence pour faire des projets de longue maturité. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau.
Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce soir évoquer cette question particulièrement compliquée et passionnante des finances de nos communes. On aura l'occasion de se retrouver pour l'évoquer à nouveau. Vous aurez le plaisir de retrouver Jessica Dantin et Isabelle Hameau dès 5h demain matin pour toute l'info locale et régionale. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.
Hello. Europe. C'est Cléo Modestine, Miss Martinique 2023. Tu veux devenir la prochaine ambassadrice de la beauté et de l'élégance ? Tu es d'origine martiniquaise, tu as 18 ans ou plus et tu mesures au minimum 1m70 ? Inscris-toi dès maintenant au casting de Miss Martinique 2024. Remplis le formulaire sur nos réseaux sociaux et prépare-toi à vivre une expérience inoubliable. Ose briller ! Miss Martinique 2024, c'est peut-être toi.
Profitez de la sélection de votre catalogue Mieux manger au meilleur prix chez Carrefour Martinique. Comme le litre de lait d'amande intense Björg à 4,59€, dont 60 centimes crédités en Smart Cash grâce à l'application Carrefour Martinique et au programme de fidélité Smart Club. Idéal pour une pause gourmande. Carrefour, j'ai choisi. Offre valable du 16 au 28 avril 2024 dans vos magasins Carrefour Genipa, Dillon, Cluny et Océanis. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr. L'heure avec BMW Martinique. Des voitures de qualité à prix métropole. Offrez-vous le meilleur. Le top horaire avec l'Express des Îles pour des vacances moins chères.
Vous écoutez RCI, il est 19h.
En avril, les prix Métropole sont garantis sur une sélection de modèles BMW chez 3AM. Hybride rechargeable, berline, modèle électrique ou X, bénéficiez également de la garantie 200 000 km offerte sur la BMW de votre choix. Rendez-vous chez 3AM en avril pour la performance et le style au tarif Métropole exclusif. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Au quotidien, prenez les transports en commun. 3AM, zone du Larentier au Lamentin. Du 30 avril au 12 mai, le Jazz and Arts Festival de Sainte-Lucie, une affiche exceptionnelle.